François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Avec vous, nous allons revenir sur plusieurs sujets d'actualité qui ont suscité de très vives réactions. Lundi dernier, plusieurs représentants de la communauté juive et le ministre de l'Intérieur se sont indignés après un message sur X du premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure en lien avec la reconnaissance de l'État palestinien par la France qui est prévue le 22 septembre prochain. Après avoir appelé à afficher le drapeau palestinien sur les mairies ce jour-là, Olivier Faure a répondu à un internaute, Julien Balloul, qui lui faisait remarquer que cette date correspondait aussi cette année à Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et Olivier Faure de lui répondre « Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. »
Cette déclaration est très choquante. Elle vient en plus du premier secrétaire du Parti Socialiste. Et j'ai été choqué comme nombre, pas seulement des Juifs, mais aussi un certain nombre de Républicains. Je veux saluer la belle réaction notamment de Benjamin Haddad, ministre de l'Europe, mais aussi de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ce qui est frappant dans cette phrase, c'est que très vite, à force d'être anti-israélien, à force d'être anti-sioniste comme Olivier Faure, il l'est constamment maintenant depuis plus d'un an, il bascute à un moment donné dans l'antisémitisme le plus crasse, le plus honteux. Relisons ce que vous venez de nous lire. « Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. » Premièrement, il assimile un combat politique, qui est légitime ou pas légitime, son combat pour une cause palestinienne, mais qui est de plus en plus la cause du Hamas, avec une question religieuse. Il mélange Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et la création d'un État palestinien. Pourquoi les Juifs, à l'occasion de leur fête la plus sacrée de Rosh Hashanah, devraient célébrer l'an 1 d'un État palestinien, qui est un État qui est construit sur la haine et sur la mort? Et là, il utilise, non pas pour parler de cet État palestinien, conduit par le Hamas ou même par Mahmoud Abbas, qui est d'une lâcheté à pleurer, il utilise la phraséologie que je viens de vous dire sur la haine, le désespoir et la mort pour reprocher aux Juifs de ne pas tendre la main. Et c'est la vieille accusation, la vieille accusation de l'inversion victimaire. Ce ne sont pas les Juifs qui sont les victimes des massacres terroristes du Hamas. Ce sont les Juifs qui portent la haine, le désespoir et la mort. Et ça rappelle des obsessions assez classiques du Moyen-Âge. Et puis plus près de nous, au XXe siècle, les Juifs communistes couteau entre les dents ou les Juifs capitalistes qui écrasent le monde. Et là, nous avons le Juif israélien qui ne sème que la haine, le désespoir et la mort. Donc c'est une ribambelle de clichés antisémites. Et quand je lis ce type de phrase, je me pose toujours la question, mais qui est cette personne? Comment, à un moment donné, le vernis craque? Et sous ce vernis, on essaye de deviner quelles sont sa culture, ses traditions, ses origines, sa formation intellectuelle et politique. Et donc je suis allé sur la fiche Wikipédia, j'encourage vos auditrices et auditeurs à aller sur Wikipédia, et vous verrez qu'Olivier Faure avait un arrière-grand-père, c'est loin l'arrière-grand-père, qui était un admirateur de Maurras et qui avait une photo dédicacée de Maurras dans son salon. Son grand-père était aussi un militant d'extrême droite, et son père aussi était un militant d'extrême droite. Et d'ailleurs, il s'en vante en disant « Moi, l'extrême droite, je connais, c'était dans ma famille. Et donc, je peux la combattre parce que je la connais. » Mais on se dit aussi qu'il a été élevé par un père et un grand-père qui, s'ils étaient maurrassiens, bah, lui ont enseigné cet anti-judaïsme, cet antisémitisme cher à Maurras. Et quand on gratte un peu le vernis, très policé du premier secrétaire du Parti Socialiste, ben on voit cette éducation maurrassienne. Et c'est une honte pour le Parti Socialiste, c'est une honte que les grands ténors du Parti Socialiste ne se soient pas élevés contre ce dérapage scandaleux. Personne ne s'est exprimé à part quelques minoritaires au Parti Socialiste, et évidemment le courageux Jérôme Guedj. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas entendu François Hollande. François Hollande, qui est, on peut accuser de rien sur ce sujet, qui a toujours été impeccable. François Hollande aurait dû pousser un coup de gueule contre ce dérapage antisémite du premier secrétaire du Parti Socialiste.
Alors, on va rester dans le domaine de l'antisémitisme. Alors que la nouvelle année universitaire débute, une enquête internationale menée par l'Anti-Defamation League et l'Union mondiale des étudiants juifs révèle une réalité inquiétante. 78% des étudiants juifs dissimulent leur identité religieuse et 81% leur identité sioniste sur les campus universitaires. Les étudiants pratiquants sont deux fois plus exposés à la discrimination, tandis que près de 30% des demandes d'aménagement religieux ont été refusées, particulièrement en Europe, où ce taux est doublé par rapport à la moyenne mondiale. Et on a vu, il y a quelques jours, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, plusieurs étudiants de première année d'économie qui ont été exclus de conversations Instagram et WhatsApp le jour de la rentrée, accusés de sionisme sur la seule base de leur nom ou prénom à consonance juive, même s'ils ne l'étaient pas. Finalement, François Heilbronn, il n'est même plus besoin aujourd'hui de loi anti-juive, elle s'applique déjà.
Oui, c'est dramatique. La situation universitaire est dramatique. Comme vous l'avez rappelé, je suis enseignant à l'université. Et j'ai beaucoup d'amis enseignants dans différentes universités parisiennes et en province. Et 2023 a été difficile, 2024 a été horrible, 2025 a été encore plus dur. La rentrée 2025 est en train d'atteindre des niveaux de polarisation, de haine et maintenant de discrimination de plus en plus terribles. Effectivement, dans les années, sur les 23 derniers mois, ça a été progressivement les militants UEJF, très courageux. Je vais saluer l'action très courageuse de Samuel Lejoyeux, ancien président de l'UEJF, et aujourd'hui Yosef Murciano, très courageux président de l'UEJF, très lucide, très efficace, avec toutes leurs sections qui sont sur le terrain. C'était eux qui étaient en première ligne. Après, ça a été tous les étudiants juifs qui s'engageaient pour Israël, et qui s'engageaient par exemple pour la libération des otages, et qui étaient pris à partie. Et maintenant, là, comme l'exemple que vous venez de donner, dans cette belle université, Panthéon-Sorbonne, où il y a eu des grands professeurs comme René Cassin, par exemple, prix Nobel de la paix, un grand juif français. Dans cette université-là, en première année d'économie, on fait des listes de qui est juif ou de qui n'est pas juif. On demande pour ou contre les juifs. On pose une question pour ou contre les juifs. Pas pour ou contre Israël. Pour ou contre les juifs. Donc les masques de l'antisionisme, de l'extrême gauche antisémite, est en train de tomber. On est passé de l'opposition à Israël, du soutien à la cause palestinienne, à un antisionisme qui cachait mal un antisémitisme. Et là, les masques sont tombés. Puisqu'on est vraiment dans la discrimination antisémite des étudiants juifs, rien que sur leur nom, ont été supprimés de ces groupes WhatsApp qui sont très importants dans la vie étudiante, parce que c'est comme ça qu'on sait les fêtes qui se passent, la vie universitaire, la vie extra-universitaire, les rencontres entre élèves. Donc on est exclu simplement parce qu'on a un nom à consonance juive, et même si on n'a même pas affiché un soutien à Israël, ce qui en plus, par ailleurs, pourrait être tout à fait légitime. Et là, il y a une très bonne réaction du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui a tout de suite saisi le procureur au tir 40, il avait été alerté par l'UEJF, et il y a une enquête et une poursuite judiciaire, et puis la présidente de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, a réagi un peu tardivement, elle a réagi, et elle aussi a porté plainte pour discrimination, et j'espère que les auteurs de la gestion de ce groupe WhatsApp, de cette question insultante, juif ou pas juif, et aussi cette discrimination à l'égard des étudiants juifs de Paris, Panthéon-Sorbonne 1, seront définitivement exclus de cette université, passeront en commission disciplinaire et sont même poursuivis en justice pour discrimination, parce qu'il faut être absolument intolérable face à cette montée de l'antisémitisme universitaire. Et comme vous l'avez rappelé au début de votre question, le sondage passionnant que j'ai lu aussi, de l'Anti-Defamation League, qui montre, et c'est une réalité, que des étudiants juifs, pour pouvoir étudier dans la plupart des pays occidentaux, ne disent pas qu'ils sont forcément juifs, ne disent pas qu'ils aiment Israël, ne disent pas qu'ils sont sionistes. Et c'est une forme de maranisation. On devient des maranes dans les universités, on doit se cacher, on ne doit pas dire le nom juif, parce qu'à ce moment-là, on devient l'objet de discrimination et d'ostracisation, ce qui est absolument scandaleux. Et en scandaleux dans un état de droit. Et heureusement, on a des lois en France. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, comme le ministère de l'Intérieur, sont très fermes là-dessus. Et j'appelle tous les étudiants et tous les professeurs à la vigilance. Et je félicite vraiment le travail de l'UEJF, qui fait un travail remarquable.
Jeudi dernier, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAJ, a déploré l'annulation de 5 universitaires à un colloque portant sur l'histoire des Juifs de France intitulé « Les histoires juives de Paris du Moyen-Âge à l'époque moderne ». Et c'est la première fois depuis sa création en 1998 qu'un tel événement se produit. C'est ce que dit le MAJ, sans citer d'ailleurs le nom des chercheurs concernés. L'événement s'est tenu lundi et hier au sein de la bibliothèque de l'Arsenal et du MAJ, où vous y étiez.
Tout à fait. Alors j'y suis allé d'abord et surtout par solidarité pour le MAJ, pour les universitaires de renom et de grande qualité qui organisaient ce colloque, notamment Liliane Hilaire-Pérez et Evelyne Oliel-Gros. C'était un colloque absolument passionnant, j'y reviendrai. Je suis allé par solidarité, mais je suis aussi allé par un intérêt historique, parce que, comme on l'a déjà évoqué à ce micro, entre autres à Sciences Po, j'enseigne un cours sur l'histoire des Juifs en France sur 2000 ans. Et donc l'histoire des Juifs à Paris au Moyen-Âge me passionnait, et d'ailleurs j'ai bien fait d'y aller, parce que c'était fascinant. Le matin où j'étais, le matin dans la belle bibliothèque de l'Arsenal, d'ailleurs c'était plein, il y avait plus de 70 personnes pour un colloque sur l'histoire juive à Paris. C'était beaucoup de monde, et pas que des chercheurs, justement. Ce boycott avait attiré aussi des gens par intérêt et par solidarité. Et c'était passionnant, c'était notamment comment le Talmud a été brûlé en 1240 sur la place de Grève à Paris devant Blanche de Castille. C'est comment Yériel de Paris discutait avec les grandes reines de France, et justement c'était une doctorante israélienne absolument sympathique et brillante qui travaille sur les grandes reines de France du XIIe et XIIIe siècle, qui a été un peu à l'origine de ce boycott universitaire. C'est-à-dire que 5 chercheurs sur les 25 invités, donc 20%, se sont décommandés, notamment 3 qui ont exprimé directement aux organisateurs du colloque, qu'ils ne souhaitaient pas participer à ce colloque, puisqu'il y avait cette doctorante israélienne, et dont le voyage avait été payé par l'Université hébraïque de Jérusalem, ce qui est normal, puisqu'elle est doctorante à l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc c'était vraiment un boycott discriminatoire, voulu pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, ce qui est absolument impensable dans le monde de la recherche académique, parce que justement, dans le monde de la recherche académique, c'est ce qu'à juste titre a rappelé le MAJ, la liberté académique, c'est justement de pouvoir parler de tous les sujets académiques sans rentrer dans les querelles politiques, parce que si on met le politique dans la réflexion académique, ben, il n'y a plus de réflexion académique. Et par exemple, je n'ai jamais vu en France, depuis 3 ans qu'il y a la guerre en Ukraine après l'invasion russe, les massacres russes, les crimes contre l'humanité russes, je n'ai jamais vu un colloque où des universitaires russes seraient présents, boycottés par des chercheurs français. Et encore heureux. Et là, il y avait un professeur israélien, il y avait une doctorante israélienne, ce qui a conduit 3 chercheurs, heureusement pas spécialistes d'études juives, mais spécialistes d'autres sujets qui avaient trait à la vie juive au Moyen-Âge en France, à ne pas vouloir venir dans ce colloque. Et c'est absolument scandaleux. Il y a une pétition de plus de 500 professeurs qui a été publiée dans Le Monde, pour condamner ça comme une atteinte fondamentale aux libertés académiques. Et comme il y avait une autre pétition, que j'avais d'ailleurs en partie animée, qui s'était élevée, là, avec succès, contre la maire de Besançon, qui avait voulu porter atteinte à la liberté d'expression politique d'un écrivain, Raphaël Enthoven, et qui l'avait censuré à Besançon, et qui, heureusement, sous la pression de nombreux écrivains et de cette pétition, est revenu sur sa décision et à nouveau invité Raphaël Enthoven. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'en 10 jours, vous avez un boycott d'un écrivain, Raphaël Enthoven, vous avez un boycott de chercheurs israéliens qui travaillent sur les juifs français au Moyen-Âge, et les juifs à Paris, vraiment un sujet polémique. Vous avez la discrimination d'étudiants juifs dans la très belle université Panthéon-Sorbonne, et vous avez, comme vous l'avez évoqué, les dérapages du premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc quelque chose ne va pas dans notre pays, il est temps que tout le monde se réveille, qu'il y ait une vraie prise de conscience de la nation dans son entier, qu'on porte atteinte aux Juifs, mais comme toujours, quand on porte atteinte aux Juifs, on porte atteinte à l'idée universelle des droits de l'homme, et on porte atteinte aux valeurs fondamentales de notre République. Il est temps que les Français, quelle que soit leur confession et leurs opinions politiques, se réveillent pour dire non, pas ça, pas en mon nom, pas dans mon pays.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.